Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans La France bouge et bienvenue dans notre bulle d'optimisme. On y découvre des femmes, des hommes qui ont l'audace d'entreprendre, qui ont des idées, qui font bouger les lignes. Et même quand c'est impossible, à La France bouge, c'est possible. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous.
Chef du service économie d'Europe 1, aujourd'hui on va parler luxe avec une marque emblématique française.
Oui, ils sont à l'origine du sac le plus vendu au monde, le fameux pliage Longchamp. Voilà bien une marque 100% familiale qui fait rayonner le luxe à la française. Spécialiste de la maroquinerie, il se développe de plus en plus sur le marché de la mode et on en parle jusqu'à 14h avec le patron de Longchamp.
À la une aujourd'hui, les marques de luxe françaises qui rayonnent dans le monde et l'une des façons de se faire connaître, c'est d'être vu dans les films ou les séries à gros budget. Pour cela, les marques passent par des agences de placement de produits. C'est la start-up Place to Be Media et on la découvre dans un instant.
Alors on a le béret, on a la baguette et on a aussi le filet à provision. Voilà bien un des marqueurs français, Filt, une des plus vieilles entreprises normandes, en a même fait une de ses spécialités et ce sera notre saga du jour. Vers 13h30.
Des sacs à base de jus de pomme. Oui,
ah ouais,
c'est bien réel. Ça s'appelle Purse. C'est le pitch des trophées Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire, la CCI. On le découvre à 13h45.
Et puis on est mercredi, donc en fin d'émission. Demain, un emploi. On a des postes aujourd'hui encore pour vous. Une quarantaine de postes à pourvoir. Où ça? Bah, vous commencez à en avoir l'habitude. Si vous êtes des fidèles de La France bouge, vous attendez la fin de l'émission pour le savoir.
Allez, bienvenue dans La France bouge. Vous pouvez nous suivre en direct sur Europe1.fr, mais aussi admirer nos jolies photos sur Instagram. C'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Et on a de la chance encore aujourd'hui, on va parler de l'une de ces belles marques françaises, notamment de maroquinerie, mais aujourd'hui c'est un vrai groupe de mode avec notre grand témoin, jusqu'à 14h.
Bonjour Jean Cassegrain.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Longchamp. Longchamp existe depuis 1948, entreprise familiale fondée par votre grand-père Jean, votre papa Philippe qui est décédé l'an dernier à qui nous pensons aujourd'hui. 3000 salariés dans le monde. Longchamp, c'est de la maroquinerie, c'est du prêt-à-porter, mais aussi plus récemment des lunettes. Et je crois, Jean Cassegrain, que ça va beaucoup mieux en ce moment.
Oui, les deux dernières années ont été assez difficiles avec la crise du Covid, mais depuis la fin de l'année dernière, les choses se sont quand même sensiblement améliorées.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on est en train de rattraper le niveau de 2019 après deux années qui ont quand même été très compliquées, puisqu'il y a eu des périodes pendant lesquelles tous nos magasins dans le monde étaient fermés. Hein. Il y a eu des moments où il n'y avait pas un seul d'ouvert. Et puis après, quand les magasins ont rouvert, les choses sont un peu reparties. Mais ce qui était une partie très importante de notre activité, qui est de vendre à des touristes internationaux.
Oui, c'est ça, dans les aéroports.
Dans
les
aéroports, mais aussi dans nos propres magasins. Il y a beaucoup de touristes qui visitent habituellement. Toute cette partie-là de notre activité qui était assez importante s'est complètement volatilisée, en fait. Même quand les magasins ont rouvert, les touristes ne sont pas revenus. Et il a fallu qu'on trouve d'autres solutions, qu'on développe d'autres canaux, d'autres
Qu'est-ce
marchés.
Qu'est-ce qui vous a permis justement de compenser alors et de retrouver ? On est quasiment au niveau de 2019 alors
On est presque au niveau de 2019. Mmh. Ce qui nous a permis de compenser cette absence des touristes internationaux qui pesaient beaucoup dans nos ventes, bon, c'est la vente en ligne. Hein. La vente en ligne s'est beaucoup développée. On a à peu près triplé notre niveau de vente en ligne entre 2019 et 2021. Et puis, c'est de développer dans chaque pays les clientèles locales. Donc, bah, par exemple, en France, en premier lieu, où ça marche assez bien pour nous en ce moment avec la clientèle française.
On a beaucoup parlé, on en parle régulièrement avec Elisabeth ici autour de la table de La France bouge, d'achat plaisir. Alors, certains appellent même ça une sorte de revanche après avoir été bloqué à la maison. Vous le voyez, donc, par exemple, à part de vos clientèles françaises ?
Oui, on voit nous, de fortes progressions sur la clientèle française. Sur la clientèle française, on est bien au-delà du niveau de 2019. Donc on a une vraie progression.
Donc, les Français achètent, les Français aussi. Les États-Unis aussi sont repartis très fort. Est-ce que vous le constatez, Jean Cassegrain, chez Longchamp ?
Oui. On est aussi en forte progression sur la clientèle américaine. Et puis en Chine, on a aussi développé la marque, puisque bon, les Chinois ne venant plus en Europe, on a dû, pour compenser aussi, développer notre réseau en Chine.
Tiens, vous avez, pendant cette crise, ouvert des magasins plus vite que ce que vous auriez fait s'il n'y avait pas eu la crise en Chine.
Bah alors, on avait déjà un plan de développement important sur la Chine,
accéléré.
Et on l'a accéléré, oui. Si vous voulez, c'est comme Internet. On était déjà en plein développement sur Internet, mais la crise nous a obligés à accélérer.
Alors, vous êtes donc très présent en Asie, notamment aussi à Hong Kong. On parle beaucoup de la fameuse stratégie zéro Covid en Chine, c'est-à-dire qu'ils ferment des villes entières dès qu'un cas arrive. Là, il y a les Jeux Olympiques, par ailleurs, qui arrivent cette semaine. Comment ça se passe sur place, vous, en tant qu'entreprise française ?
Alors, Hong Kong, c'est une ville qui vivait aussi beaucoup du tourisme.
Qui s'est quasiment fermée.
Voilà, et donc, même pour les Chinois, c'est impossible d'aller à Hong Kong. Enfin, où c'est possible au prix de grosses complications en termes de quarantaine, etc. Donc, en fait, il n'y a plus aucune clientèle chinoise qui visite Hong Kong, alors que ça représentait pour nos magasins là-bas environ la moitié de l'activité. Donc là, c'est pareil, on se retourne plus vers la clientèle locale hongkongaise, bon, qui
et ça suffit,
est bloquée
ça,
chez
à
elle. C'est difficile, clairement, ça reste.
Et plus
reste
largement, difficile. Comme le disait Elisabeth, sur la Chine, parce que c'est vrai que vu d'Europe, ces politiques qui ferment quasiment du jour au lendemain
des villes entières
avec des millions d'habitants parfois.
Il y a la ville de Xi'an qui est complètement confinée depuis plusieurs semaines maintenant. Oui, c'est compliqué. Alors, le pays tourne à peu près, mais bien sûr, c'est une réelle inquiétude. Oui.
Alors, votre produit phare, hein, Emmanuel le disait tout à l'heure, hein, chez Longchamp, c'est le sac pliable, un sac qui touche toutes les générations. Il existe depuis 1993. On en vend toujours autant ?
Oui, on en vend toujours beaucoup. C'est un produit qui est réellement universel.
Mais c'est vrai que c'est le sac le plus vendu au monde. J'ai lu ça en préparant cette interview.
Écoutez,
en tout cas, pour une marque de luxe, on va dire.
Voilà, je pense que... Je ne vois pas quel autre sac va être plus vendu que celui-là, mais il y en a peut-être
d'autres
qui... Vous en
vendez combien par an ?
En plusieurs millions par an.
Ah oui, plusieurs millions ? Ah oui, donc c'est bien le sac le plus vendu au monde.
Est-ce que finalement, c'est un sac qui touche toutes les générations ?
Il touche toutes les générations, toutes les nationalités, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes. Il est vraiment universel. Et puis, il est aussi en train d'évoluer puisque on est en train de passer toute notre production de sacs pliage en toile recyclée. Donc, il devient aussi encore moins émetteur de CO2.
Donc, il va être quoi ? Il va être en nylon recyclé, le futur pliage ?
Donc, c'est du nylon qui est fabriqué à partir de déchets d'autres produits en nylon, comme par exemple des moquettes, des filets de pêche.
C'est fort, ça.
Avec ça, on fait des petites granules. Avec les petites granules, on refait du fil. Et avec le fil, on retisse de la toile nylon qui a exactement les mêmes caractéristiques que la toile nylon.
Ce sera spécifié, sac pliable.
Oui, on l'explique. Oui,
et il sera plus cher ?
Il est un petit peu plus cher parce que ce nylon recyclé coûte effectivement pas mal plus cher.
Vous nous dites que vous rattrapez en ce moment le niveau de 2019. Vous avez triplé la vente en ligne en 2 ans, Jean Cassegrain. Vous êtes le PDG de Longchamp. Vous êtes notre grand témoin du jour et vous restez avec nous.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
On est ravis avec Elisabeth Assayag et toute l'équipe de La France Bouge de vous accueillir là chaque jour en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h dans notre bulle d'optimisme et notamment aujourd'hui pour parler de ces marques françaises, notamment de luxe, qui continuent de bien fonctionner en cette période qui reste bien évidemment compliquée. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Jean Cassegrain, qui est le patron de la marque Longchamp.
Et quand on est une marque, encore plus une marque de luxe, hein, rien de mieux que le placement de produits. Hein. Vous savez, les placements de produits, vous en avez...
On le voit, là, au début d'Emily in Paris, vous savez, en haut à gauche, c'est écrit « Cette série a été réalisée avec un placement produit ».
Oui, c'est vrai, vous êtes fan de la série Emily in Paris.
Non, j'ai trouvé ça nullissime la deuxième saison, mais je me suis fait la réflexion en disant que c'était écrit en haut à gauche.
Alors oui, on les voit à travers les séries télé, à travers les réseaux. Et nous, on a trouvé à La France Bouge, la start-up qui en a fait son métier. Bonjour Jean-Dominique Bourgeois.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de l'agence Place to Be Media, une agence créée il y a 13 ans, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Elle place des produits, c'est-à-dire que vous mettez des produits dans des séries télé, au cinéma par exemple. Ça permet un complément de revenu à la marque et une belle visibilité, c'est ça l'idée ?
Alors ça permet un complément de revenu surtout au producteur toucher de l'argent pour placer le produit dans sa série. Et ça permet évidemment à la marque d'exister et de profiter de l'exposition et de la diffusion de la série pour gagner en notoriété et en image.
Donc tout le monde est gagnant. Donc pour qu'on comprenne bien, c'est quoi le placement de produit ? C'est un producteur qui vous appelle et qui dit voilà, je vais avoir une jeune fille 30 ans qui est parisienne, il me faut des sacs à main un peu flashy. Comment ça se passe ?
Ouais, généralement ça part du producteur, c'est-à-dire qu'on reçoit des scénarios qu'on lit, qu'on appelle ça un dépouillement dans notre jargon, et on identifie les pistes de placement de produit. Et ensuite, à partir de là, on va le proposer à des marques d'intégrer l'œuvre moyennant un budget et on s'engage sur un volume d'exposition avec un engagement de visibilité de la marque.
Le volume c'est en minutes, c'est en...
Alors c'est souvent en séquence. On ne parle pas forcément en secondes, mais on parle en séquence.
Mais ce qui est impressionnant, et j'imaginais pas que ça se passe comme ça, c'est que je pensais qu'ils arrivaient avec une sorte de cahier des charges en disant on a besoin de 12 marques de luxe pour faire notre série. Et non, c'est vous qui en regardant, vous identifiez les potentialités. Et ça va dans tous les secteurs, parce que là on a pensé aux marques de luxe, mais ça va aux marques de voitures, aux ordinateurs, aux montres, j'imagine, à tout
exactement. Ça. On a des produits qui sont des secteurs qui sont pour nous récurrents. Alors l'auto, ça, c'est un secteur très important pour nous en placement de produits, puisqu'il y a quasiment des voitures dans toutes les séries et les films. Mais c'est vrai également pour la téléphonie portable, c'est vrai pour les ordinateurs, pour les montres. Mais c'est vrai qu'après, nous, on est amené à travailler avec vraiment tout type de marques. On peut travailler avec des marques de cosmétiques, des marques d'agroalimentaire.
Mais comment ça se passe? Parce que le producteur de film, il a bien évidemment imaginé son film, il a à peu près écrit toutes les séquences, mais on sait qu'au montage, il y en a qui sont parfois coupés. Comment ça se passe? Là, vous dealez avant en disant, attention, là, la marque, on va dire Audi, Mercedes, Renault, PSA, ils ont payé, donc il faut qu'il y ait 14 secondes et 12 plans séquences, il faut qu'on les voit.
Nous, on se base sur le scénario, en fait, sur ce qu'il y a dans l'histoire, ce que les auteurs ont écrit. Donc là-dessus, on va vendre un volume de séquences, et après, évidemment, avec un budget. Si jamais le volume évolue, le budget évoluera de façon proportionnelle. Mais notre but, il est que ce qu'on a vendu, évidemment, reste à la fin dans le film. Et encore une fois, j'insiste sur un point, c'est que pour que ce soit vraiment un placement de produit, il faut que la marque soit identifiable. Que ce soit
donc
pas simplement le produit,
connu,
mais une marque.
Mais alors, ça arrive que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que vous ayez des marques qui sonnent à votre porte et qui vous disent, si vous avez une série où j'aimerais bien qu'il y ait...
Alors, ça peut arriver. Nous, évidemment, c'est notre rêve absolu, hein, parce que c'est tout bénef pour nous. Ça arrive sur des séries, surtout, qui ont une très forte notoriété, qui sont très connues.
Comme 10%, par exemple.
Voilà, 10%, c'est une série sur laquelle on fait pas mal de placements de produits. C'est une série qui bénéficie d'une très belle exposition et de très belles valeurs. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une série qu'on nous demande beaucoup, comme Emily in Paris, dont vous parliez précédemment.
Typiquement, quand on regarde 10%, c'est pas écrit au début de la série, en haut à gauche, cette série bénéficie d'un placement de produit.
Picto qui apparaît en bas à gauche de l'écran au début de la série. Si vous regardez, il y a la majorité des séries françaises sur lesquelles nous on fait des placements de produits.
Donc c'est un pictogramme.
C'est ça, un petit pictogramme avec un
gardien.
P. Joséphine. Mmh. Alors voilà, ou les séries quotidiennes qui sont pour nous les principales séries à placement de produits comme Plus belle la vie, Demain nous appartient.
On est d'accord qu'il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui.
Bah,
ça existe depuis des années, mais il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui.
Alors en télévision, oui, parce que c'est vrai que c'est quand même relativement récent. Hein, c'est autorisé depuis à peine plus de 10 ans, télévision, placement de produits. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport au nombre de productions françaises, on en a beaucoup. Dans le cinéma, non, ça a toujours existé. Je dirais que depuis 20-30 ans, c'est déjà bien, bien installé. Beaucoup moins qu'aux États-Unis, évidemment, qui est le pays un peu
précurseur. Est-ce que des fois, vous faites changer les scénarios?
On n'a pas le droit.
Ouais, enfin bon, là, vous nous le dites. Oui, bah,
non,
c'est ça.
On peut aménager.
C'est un oui, peut-être de temps en temps, mais je ne vous dirai pas oui.
On peut aménager une séquence. C'est-à-dire que, voilà, parfois, pour que ce soit plus crédible et pour que ce soit plus légitime pour le produit, on peut être amené à modifier un tout petit peu les textes. Mais on ne peut pas écrire sur mesure aujourd'hui une séquence pour du placement de produit.
Jean-Dominique Bourgeois, est-ce que vous avez déjà fait un gros coup avec une marque que vous avez pu placer dans une de vos séries?
Alors, on a des annonceurs à l'année qu'on place énormément. Je pense par exemple à une marque comme Seat.
Qui aujourd'hui
doit être présent dans plus d'une vingtaine de productions françaises, que ce soit toutes les séries quotidiennes, etc. Donc voilà, et avec qui on fait beaucoup de volume.
C'est marrant, on s'attend pas à ce que ce soit bientôt l'une des marques qui mise le plus là-dessus, une marque du groupe Volkswagen, peu présente en France, mais enfin bon, c'est de loin pas un très gros vendeur en France.
Ouais, après c'est un parti pris, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de communication, ils ont misé sur ce levier-là.
Et vous acceptez de nous dire combien? Alors, pas Seat, parce que vous venez de les citer, mais en moyenne, combien ça coûte à une marque?
Franchement, très honnêtement, les budgets sont très très variés.
Ça dépend de l'audience aussi.
Évidemment, ouais, ça dépend de l'audience, ça dépend de la dimension du programme, ça dépend du volume. Mais on va dire qu'aller une séquence en moyenne en télévision, on va être autour de 10 000 euros. Et en cinéma, on va être entre 5 000 et 50 000 euros. Mais après, sur des séries internationales, comme justement Emily in Paris, les budgets sont beaucoup plus élevés.
Jean Cassegrain, vous êtes le patron de Longchamp, m'a glissé que justement dans Emily in Paris, vous avez un de vos sacs à un moment que l'on voit. C'est du placement de produit ou c'est le coup de chance qu'on vous a appelé?
Alors, je dirais ni l'un ni l'autre, parce que alors c'est pas du placement payant, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas payé, on a prêté le sac. Et je dirais pas que c'est un coup de chance, parce que c'est parce qu'on a aussi des produits sympas que les producteurs ont envie
vous,
de les voir dans la série. Oui, ils sont venus à nous.
Donc là, vous n'avez pas eu besoin de passer par une agence, ce genre de choses. C'est eux qui sont venus à vous.
Je pense que du placement payant, on n'en a pas fait, mais régulièrement.
Ah, vous en faites jamais?
Non, on n'en fait pas. Peut-être on en a fait en Corée déjà, parce que les séries coréennes sont très populaires en Asie. Je ne crois pas qu'on en ait fait en Europe. Mais on a souvent nos produits dans des films ou des séries.
Vous le découvrez des fois par hasard ou quand même on le sait toujours à l'avance ?
Souvent, c'est nous qui avons prêté le produit. Donc,
oui, donc vous êtes au courant. Jean-Dominique Bourgeois, vous êtes le fondateur de l'agence Place to Be Media. Les influenceurs ne vous font pas de l'ombre ?
Ouais, c'est évidemment une concurrence pour nous. Après, ce n'est pas forcément des typologies de produits qu'on place beaucoup, puisque c'est forcément des produits qui vont viser les 15-25, voire même parfois en dessous.
Emeline Paris, c'est quand même...
Ouais, c'est tout le monde.
Mais si vous regardez la fiction française et la majorité des films, on va être quand même sur des audiences un peu plus âgées, donc des typologies de produits un peu différentes.
Vous êtes complémentaires,
mais,
du coup.
Moi, c'est ça. Mais après, c'est évidemment un moyen aussi efficace de faire du placement de produits, les influenceuses.
On fera davantage attention maintenant quand vous regarderez une série.
Vous le connaissiez, le petit pictogramme ?
Mais pas du tout. Je vais faire attention. Je serai attentive. Merci à vous, Jean-Dominique Bourgeois.
Je vous en prie, avec plaisir.
Vous êtes le fondateur de l'agence Place to Be Media. Merci d'être venu dans La France Bouge.
Et Jean Casgrain, le patron de Longchamp. Vous restez avec nous, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Aujourd'hui, on parle des marques françaises de luxe qui font rayonner notre pays à l'international. Parmi elles, il y a bien évidemment la marque Longchamp, une marque 100% familiale que vous dirigez, Jean Casgrain, PDG de Longchamp. Est-ce que vous produisez tout en France ?
Alors non, on ne produit pas tout en France. On a 6 sites de production en France, dans le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Vendée et l'Orne.
Oui, tout dans les Pays de la Loire.
Voilà, dans les Pays de la Loire. Mmh. Et puis, on produit aussi hors de France. Donc on
peut avoir une idée de la proportion ?
Non, parce qu'on ne donne pas de chiffres, mais on produit aussi en Tunisie, où on a notre atelier, à l'île Maurice, où on a un atelier depuis peut-être pas loin de 40 ans maintenant. Et puis, on a également des partenaires en Roumanie et en Chine.
Et pourquoi vous ne décidez pas de tout relocaliser ? C'est pour des histoires de coûts ?
Alors, bien sûr, le coût n'est pas neutre. Hein. Il y a une vraie différence de coûts. Mais le fait d'avoir des ateliers qui peuvent produire nos produits en Chine, par exemple, ça nous permet aussi d'organiser notre production différemment, de limiter nos transports. Donc avec la crise du transport qu'on connaît actuellement, c'est bien utile de pouvoir livrer les pays asiatiques directement depuis la Chine quand on le peut.
On le disait tout à l'heure, hein, vous êtes né comme une marque de maroquinerie, c'est vraiment le fonds de commerce, si je peux le dire ainsi, de l'entreprise. Mais depuis une petite dizaine d'années, vous vous êtes développé sur le prêt-à-porter, Elisabeth le disait tout à l'heure aussi, sur les lunettes. Est-ce que ça marche, ce développement ? Est-ce que Longchamp, à terme, sera une sorte de Vuitton, une marque encore plus globale que ce que vous êtes aujourd'hui ?
Alors oui, ça marche. Alors si vous voulez, c'est vrai que ce sont des marchés qui sont difficiles parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui est présent et on n'est pas forcément attendu. Mais ces produits, ils ont différentes fonctions. Ils ont aussi la fonction de contribuer à faire rayonner la marque. Bon, et le prêt-à-porter notamment permet d'exprimer l'identité de la femme Longchamp de façon un peu plus complémentaire des sacs, si vous voulez. Ça nous permet, quand on voit la silhouette complète de la personne, ça donne une image de la marque qui est un peu plus complète, un peu plus fine, si vous voulez, que juste sur le sac. Et puis les lunettes, c'est une licence qu'on a lancée il y a à peu près 3 ans maintenant, donc avec un partenaire licencié, et qui marche vraiment très très bien, et qui permet aussi de contribuer à faire connaître la marque, à exposer la marque dans un réseau de distribution différent qui est celui des opticiens. Et ça contribue maintenant très positivement au rayonnement
de la marque. Mais ça pourrait aller jusqu'au... On a reçu Hermès, par exemple, ici, il y a quelques semaines. Les cosmétiques deviennent très importants pour eux. Ils sont en train d'investir beaucoup là-dessus. Ils avaient commencé par un très joli rouge à lèvres et ça se développe. C'est quelque chose sur lequel vous pourriez aller aussi chez Longchamp ?
Alors bon, tout est possible, mais... Pour l'instant, on estime qu'on a déjà suffisamment à faire avec les catégories de produits sur lesquels on est présent, la maroquinerie, le prêt-à-porter, le soulier, les lunettes.
Mais justement, vous êtes présent sur le prêt-à-porter, mais qui est derrière toute cette création,
ma sœur est la directrice du studio.
Ah
donc,
ça reste en famille.
Oui.
Ça reste en famille. Donc ça veut dire quoi qu'elle choisit la silhouette Longchamp d'aujourd'hui ?
Oui, c'est elle qui imagine la femme Longchamp.
C'est qui la femme
après
Longchamp
saison.
Elle est comment ?
Alors, elle est parisienne, hein, déjà, puisque la marque est parisienne. Et cette image de la parisienne, on l'a toujours en tête. Elle nous porte dans le monde. Je crois que la femme parisienne. Alors, vous parliez de la série Émilie de Paris, où il y a quelques clichés peut-être, mais si vous voulez, ça montre que cette image de la femme parisienne, elle est importante pour les clientes du monde entier. C'est une sorte de référence, de style. C'est une femme qui arrive à combiner sa vie professionnelle, sa vie familiale, et puis à être élégante en même temps, mais élégante sans se forcer, si vous voulez, ce côté naturel. Et je pense, impressionne beaucoup les femmes des autres pays. Mmh. Et finalement, c'est une espèce de rêve pour elles d'arriver à être comme la parisienne.
Alors quand on ne peut pas forcément se l'offrir, est-ce que Longchamp, qui a cœur de créer des produits qui durent, est-ce que vous aussi, vous vous lancez sur les produits de seconde main, comme beaucoup d'autres enseignes aujourd'hui ?
Alors, nos produits sont déjà disponibles en seconde main sur les sites spécialisés,
oui,
de façon assez importante.
Oui, Vinted et Le Bon Coin. Mais vous, est-ce que vous en faites une activité
chez vous, ouais.
Alors, si vous voulez, là c'est une question à laquelle on réfléchit. Est-ce que nous, en tant que marque, on va apporter une valeur ajoutée par rapport à ces sites spécialisés qui font assez bien le travail, qui mettent les consommateurs...
Ça donne confiance quand même. Entre acheter un sac chez Vinted, Longchamp, et un Longchamp, c'est Longchamp, on va aller chez Longchamp.
Oui, on aura un conseil.
Non, mais pourquoi pas, en fait.
Ça
si vous voulez, on y réfléchit, mais à ce stade, moi, ce que je pense, c'est que notre premier job, c'est de faire en sorte d'offrir à nos clients des produits d'une qualité suffisante pour qu'ils puissent durer et éventuellement être revendables en seconde main.
On peut les réparer chez vous aussi ?
Oui, alors on peut réparer. Si vous voulez, c'est aussi un sujet très très important pour nous, la réparation. La seconde main, moi je pense qu'on la favorise à travers la qualité de nos produits et le fait de faire des produits qui puissent durer, être gardés ou être revendus.
Alors Jean Cassegrain, chaque jour dans la France Bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise ou d'un produit qui ont traversé les années, les générations, et c'est le cas aujourd'hui. Hein, on va aller en Normandie, dans l'une des plus anciennes entreprises normandes. Elle date du 19e siècle. Elle fabrique du textile technique, des filets, des cordons. Et il y a 10 ans, cette entreprise a été rachetée. Figurez-vous qu'il s'agit du filet à provision.
Oui, ils ont relancé le filet à provision. Un énorme succès à l'étranger. Le produit fait très français, bien évidemment. Il est donc revenu grâce à ça à la mode. Et c'est Quentin Payet de l'équipe de La France Bouge qui nous y emmène.
Europe 1. La France Bouge, la saga.
Un cabas, un panier, un sac ou même une poche dans certaines régions françaises, c'est l'accessoire indispensable pour faire des courses. Mais rien ne détrône le filet à provision. Le plus connu, c'est une entreprise normande qui le fabrique. Elle s'appelle Filt. Tout commence en 1860 dans la campagne au sud de Caen. Filt, c'est d'abord une coopérative de paysans. Puis au début du XXe siècle, la famille Lohner la transforme en une véritable industrie. Catherine Cousin, directrice générale de Filt.
Les sacs à provision, ça fait les belles années de l'entreprise, on va dire après-guerre, après les années 50 jusqu'au début des années 80, mais sur des gros volumes et des gros marchés aux États-Unis ou ailleurs. Hein. Plusieurs modèles en plastique avec des poignées injectées. Il y avait une vraie grande gamme. Et puis, le sac plastique est passé par là, donc l'entreprise n'a plus du tout vendu de fil à provision. Mais comme il y avait déjà de la diversification, l'entreprise n'est pas morte pour autant, puisqu'elle avait d'autres produits, d'autres domaines d'activité, moindres, mais en fait, ce sont les autres produits qui se sont développés.
La production de filets à provision est donc arrêtée pendant un petit peu plus de 20 ans. Et puis un jour, Catherine Cousin et son mari, à la tête de l'entreprise depuis 2006, reçoivent une commande de filets, branle-bas de combat pour retrouver le savoir-faire.
Donc on a appelé une dame qui était partie à la retraite, qui avait fait du fil à provision toute sa vie. Et elle est venue nous expliquer comment assembler le fil à provision. La méthode était très, très archaïque et plus du tout au goût du jour. Et en plus, à cette même période, nous, on avait investi dans des métiers à tricoter très complexes et très perfectionnés. Ce qui nous a permis, en fait, avec justement cette nouvelle technologie et son enseignement de dame à la retraite, de pouvoir se rendre compte que on pouvait faciliter la vie des couturières en mettant des tas de points de repère et des tas de choses dès le tricotage et que nos machines nous le permettaient. On a vraiment mixé, en fait, nouvelle technologie et son enseignement traditionnel.
La production repart, le filet à provision est présenté au salon Maison et Objets, le salon de la décoration, du design et de l'art de vivre. C'est un succès, mais pas là où on l'attend.
Et là, on s'est dit, waouh, il se passe un truc, parce que même si on était très très mal placé, en fait, les gens ont dit, waouh, en fait, ça existe encore, mon Dieu, j'avais oublié. Et d'un coup, tout le monde a commencé à nous parler de sa grand-mère, quand j'étais gamin, quand j'allais chez ma grand-mère. Et il y a une une vraie nostalgie en fait sur le produit. Petit à petit, il s'est fait connaître. Mais finalement, on a démarré très vite à l'export, puisque c'est d'abord le marché japonais qui a été friand du produit, parce que pour eux, c'est vraiment ultra français en fait. Alors qu'en France, on le boudait un peu, on disait oh, je suis pas sûr que ça se vende. Il avait encore son étiquette de ringard.
Filta, une particularité, c'est une industrie où le télétravail est possible et l'entreprise n'a pas attendu le Covid pour cela. Produire des filets à provision chez soi, dans son salon, a fait ses preuves.
C'est une méthode qu'on a depuis très très longtemps. On fait toute la partie couture, on ne fait pas du tout la partie coupe et tout ça. On fonctionne à la quinzaine, elles viennent chercher les produits coupés et puis elles nous les ramènent cousus et en reprenant des produits coupés, on fonctionne comme ça. Et en plus, c'est un peu à la carte. On a un planning au trimestre et on leur demande combien de pièces elles estiment pouvoir fabriquer sur le trimestre. Quand c'est les vacances scolaires, par exemple, elles vont être un peu moins disponibles, donc elles en prennent un peu moins, par exemple. Ou si elles ont une surcharge de travail chez un autre employeur, elles vont être moins disponibles, donc c'est à la carte.
Aujourd'hui, le filet à provision Filt est un véritable accessoire de mode qui s'exporte comme des robes Chanel ou des montres Cartier. L'entreprise cannaise vend environ 300 000 filets chaque année, dont 70% à l'étranger.
Oh là là, c'était vraiment passionnant. Merci à vous, en tout cas, Quentin Payen. On en a encore appris beaucoup de choses. Jean Cassegrain, patron de Longchamp.
On appelait ça la poche.
La poche à commission.
La poche à commission avec ma mamie à Bordeaux.
Ouais,
prends ta poche.
Souvent.
Elle était verte, me souviens.
Ah ouais.
Bon, bah
voilà. Moi, elle était, bah, on dit des pochons, je
des
pense,
pochons, ouais,
ou un
bon,
cabas.
Enfin, bon,
voilà,
enfin,
bon, c'est
passionnant
notre
souvenir.
Jean Cassegrain, vous êtes le patron de Longchamp. Si on a eu envie de vous faire écouter cette saga, c'est parce que vous les connaissez très bien chez Filt. Je crois que ce qui cartonne, est le fameux sac que vous aviez dans Émilie de Paris, je crois que c'est justement un sac à provision, c'est celui-ci.
Exactement.
Et vous travaillez avec eux ?
Oui, on travaille avec eux. C'est une entreprise effectivement très sympathique et la collaboration familiale, puisque nous, comme
deux
eux, on est une entreprise familiale, voilà, c'est très très bien passé. Ils ont été super. On les a poussés un petit peu dans leur retranchement. On leur a fait faire quelques petites modifications au produit. On leur a demandé de suivre des quantités assez importantes, mais ils ont toujours été ouvert, positif et dynamique.
Vous le dites, vous êtes une entreprise familiale. Combien de fois par an vous propose de vous racheter ?
Ça arrive, c'est pas tous les jours non plus, mais c'est arrivé, oui.
Et c'est un nom catégorique ? Parce que vous êtes plusieurs frères et sœurs à travailler dans... Tous les frères et sœurs de la famille travaillent dans l'entreprise ?
Oui, toute la famille travaille dans l'entreprise et également deux de mes fils également maintenant. Donc on est tous dans la famille.
Donc la nouvelle
on est
génération
super
est
motivés.
Prête.
Super motivé, donc la réponse est non.
Hein, pour l'instant,
on
ne
vend
non,
pas
oui.
Pour l'instant. Vous restez avec nous, Jean Cassegrain, vous êtes le PDG de Longchamp. On va vous demander maintenant d'apporter justement votre expertise à une jeune entrepreneur qui se lance.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, on va continuer à parler de maroquinerie dans les trophées de l'avenir européen. La France bouge chaque jour à elle où ils tentent de vous convaincre. Et pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil exigeant. Attention quand même de notre témoin du jour, en l'occurrence aujourd'hui, Jean Cassegrain, qui est à la tête de la marque Longchamp. Et puis bien évidemment, on va retrouver notre star à nous. Alors là, tout secteur confondu, mais à chaque fois avec des idées passionnantes, Nathalie Carré, notre partenaire de la CCI.
Aujourd'hui, on va vous présenter une entreprise née il y a un an. Bonjour Marie Quignoux.
Bonjour.
Vous avez 26 ans, vous êtes la fondatrice de Peurce. Peurce, ça s'écrit P-E-U-R-C-E. C'est une marque de maroquinerie éco-responsable. Alors, je disais tout à l'heure, elle est fabriquée à base de jus de pomme. Je précise, les matières premières proviennent de la production de jus de pomme sur lesquelles vous récupérez la peau, la chair ou encore les pépins. Vous venez de Brest, vous avez fait vos études à Bordeaux et vous avez laissé votre travail dans le marketing parce que vous aviez envie d'un boulot qui vous passionne. Alors vous l'avez créé, c'est Peurce, eh bien, vous allez nous raconter la suite. C'est parti pour votre pitch, vous avez une minute.
Donc Peurce est une marque de maroquinerie durable et transparente, fabriquée à partir de pommes recyclées. Son objectif est de réduire l'impact qu'a la maroquinerie sur l'environnement grâce à des composants plus propres fabriqués en France et en Italie. Et tout cela est assemblé en Bretagne. Je prône une communication 100% transparente puisque pour chacun de mes produits, j'indique leurs composants et leur origine. Le lancement donc de l'activité de Peurce était en septembre dernier et j'ai mis ça sous forme de pré-vente. Ce qui me permettait de fabriquer que ce dont le client avait besoin. Et ainsi, j'ai pu aussi éviter de surproduire, c'était un peu l'objectif. La première collection était composée de 3 produits, un sac en bandoulière, un protège-passeport et un porte-carte de coloris noir. Cette couleur avait été choisie au préalable lors de mon étude de marché, quand j'ai sondé mon cœur de cible. Et c'est de cette manière-là que je souhaite continuer à travailler en co-créant mes futurs collection avec mes clients grâce à des sondages.
Moi, je vais donner le prix parce que je suis payé pour ça. On m'a dit qu'un sac, ça valait 280 euros, par exemple, c'est ça ?
Tout à fait.
Et donc,
exactement.
Le porte-carte est...
Le porte-carte est à 55 euros et le protège-passeport, 70.
Voilà, comme ça, on a tous les détails.
Et c'est fabriqué en France, hein, même
et
si la matière...
Mais pour que je comprenne bien, parce que moi, je suis un peu benêt. Donc, qu'est-ce que vous utilisez de la pomme ? C'est-à-dire que comment ça devient une forme de cuir, la pomme ?
Alors, la pomme permet de remplacer le plastique. Qui, par exemple, si on compare à un simili-cuir, qui lui est composé de 100% plastique, cet apport de pomme, donc, qui est toute la fibre, les pépins, la chair et la peau de la pomme, permet de remplacer une partie de plastique.
D'accord.
Donc, comparé à un simili-cuir, c'est plus propre, entre
bien
guillemets,
sûr, c'est
et
c'est
mieux.
C'est plus écologique. Okay, voilà. C'était juste pour que je comprenne.
Le...
Bravo.
En tout cas, c'est très très clair. Qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie ? Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Marie, bonjour Emmanuel.
Coucou.
Alors, vous avez étudié le projet Purse. Vous en pensez quoi ? C'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses ?
Bah déjà, la créativité n'a pas de limite. On avait le raisin, on avait la peau de poisson, on avait les chambres à air de tracteur, je vous rappelle.
On a fait une pamplemousse. Non, pas encore. Je...
Mais hier, on a parlé de matériaux à base d'ananas.
Ananas, voilà.
Ah oui,
c'est ça.
Ananas, on a, il y a ça.
Bon,
aujourd'hui,
c'est la pomme.
Parce qu'on m'a dit, il ne faut surtout pas dire cuir d'ananas. Donc,
aujourd'hui, c'est la
pomme. À base d'ananas. Aujourd'hui, c'est la
pomme. Aujourd'hui, c'est le textile de pomme. Donc, bravo pour cette découverte. Je ne connaissais vraiment pas. Et pour la transparence.
Ça me rassure, c'est pas le seul, alors.
Ah bah oui, non, j'ai dû chercher quand même. Et pour la transparence, puisque vous l'avez dit, hein, ça ne remplace pas tout le plastique, mais en tout cas une bonne partie. Et puis en plus, c'est vrai qu'a priori, de ce qu'on voit, hein, le textile de pomme, ça semble avoir un rendu quand même beaucoup plus élégant que d'autres matières végales.
Nous, on l'a là
matières
en studio,
végales.
Juste à côté d'Elisabeth Assayer, on l'a touché. Et franchement, c'est assez agréable. Jean Cazerin, patron de Longchamp, vous en pensez quoi ? Vous aussi, c'est assez agréable comme touché.
L'aspect est plutôt meilleur que celui d'autres produits à base de végétaux qui souvent sont un peu imparfaits.
La pomme au saumon, par exemple, vous misez sur la pomme. On va dire ça comme ça.
Alors le saumon, c'est pas végétal.
Non, la peau. La peau. On parlait juste de la peau. Allez-y, Nathalie, on vous en prie.
Non, mais je vous en prie. Donc, c'est une bonne idée. Bonne idée d'avoir lancé un trio, vous avez le sac porte-carte et le protège-passeport, ça fait quand même déjà une gamme pour démarrer. Alors évidemment, vous démarrez, vous êtes seul, ça demande un peu de priorisation. Vous avez donc déjà une gamme, vous avez un peu de répit pour vous concentrer sur deux priorités, le positionnement et la visibilité évidemment pour faciliter les ventes. Alors le positionnement d'abord, une marque de maroquinerie durable fabriquée à partir de pommes recyclées, eh ben c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, une cliente ne cherche pas un sac en pomme, voyez-vous, ou en ananas ou en raisin. Elle cherche un sac joli, pratique et peut-être vegan. Donc, avec les infos disponibles, j'ai l'impression que vous misez sur le côté pratique avec le textile de pomme qui, a priori, est très durable et très résistant. Vous avez beaucoup travaillé, semble-t-il, sur le fermoir qui est joli mais pratique. Vous avez mis des petites pattes sous le sac
pour
ne pas abîmer le fond. Ben voilà. Donc, on pourrait avoir un truc genre Purse, la maroquinerie hyper pratique et élégante. Mais vous avez aussi le côté production à la commande. Vous pourriez vous positionner sur quelque chose de plus luxe avec le sac sur mesure. S'il était possible, peut-être de personnaliser un peu. En tout cas, c'est un choix intime qui dépend de vos valeurs. Donc, c'est à vous de décider. Et une fois que ce choix sera réalisé, alors effectivement, un site internet très complet qui raconte votre histoire, l'histoire de chaque choix, qui détaille la production, mais surtout des partenaires, des nanos, des micro-influenceurs pour valoriser votre offre. Alors, je sais que c'est compliqué de recruter pour le moment, mais évitez de rester seul. Donc, il y a des clubs de dirigeants dans la plupart des villes. Il y a votre CCI, je vais faire un peu de pub pour une fois.
Mais oui, il faudrait que la CCI l'accompagne quand même.
Qui peut vous aider à construire votre plan d'action. Il y a aussi du mentorat pour qu'il y ait quelqu'un à vos côtés. Donc, entourez-vous.
Bah, vous allez nous trouver un petit rendez-vous, Nathalie, non ? Pour elle.
Allez, on va faire.
Pour
on peut faire
allez,
ça.
Un petit rendez-vous avec Nathalie Carré.
Mais oui, c'est pas facile de démarrer tout seul.
Bah oui, vous allez
vous
nous trouver quelqu'un.
Vous en pensez quoi, Marie Quignou ?
Ah bah écoutez, avec plaisir, je veux bien rendez-vous.
C'est vrai, c'est dur la solitude du jeune entrepreneur ?
Oui, un peu, je vous avoue.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui est le plus difficile ?
Le passé de salarié à. On ne fait pas nos propres choix, on doit les faire avec quelqu'un derrière. Là, je me retrouve toute seule à faire mes propres choix. Donc, des fois, c'est bien, mais aussi des fois, on a un peu besoin d'avoir un avis extérieur et même travailler toute seule à mon bureau et ne pas voir du monde. Mmh. Et aussi faire beaucoup, beaucoup de tâches toutes différentes. Mmh. À un moment donné, on a un manque de temps et
de créativité aussi.
Mmh. Oui, totalement.
Jean Cazerin, justement, patron de Longchamp, vous en pensez quoi de tout cela ?
Bah moi, je trouve que c'est un projet intéressant. J'aime bien aussi l'aspect pré-vente, qui, je pense, est une bonne solution et une bonne idée, en particulier pour une entreprise qui démarre. Beaucoup de start-up qui vendent directement comme ça aux consommateurs sont sur ce principe et je pense que c'est un bon principe. Ça limite les engagements financiers. J'aime bien l'aspect...
Ils sont jolis ou vous les trouvez comment ?
Oui, ils sont bien, oui. Alors, après, il faudrait peut-être étoffer un peu la gamme, parce qu'il n'y a que trois produits. Donc, si vous voulez, c'est un peu juste pour faire une marque. Bon. Mais bon, chaque chose viendra en son temps. Je trouve que c'est intéressant aussi l'idée de co-création avec les consommateurs. Ce n'est pas forcément facile à exécuter, parce que les consommateurs... c'est pas tout le monde qui peut être créatif et avoir des idées, mais au moins ils peuvent exprimer un besoin.
Donc exprimer un besoin, mais pas tout quand même. Hein. ça s'appelle Purse. Merci à vous Marie Quignoux d'être venue dans La France Bouge nous présenter votre beau projet. On vous souhaite bonne chance et surtout on vous laisse prendre rendez-vous avec Nathalie Carré.
Et justement Nathalie, d'ici là, nous on vous retrouve quand même demain si vous aussi voulez venir présenter votre entreprise. C'est très simple, une seule adresse mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1.
Suite et fin de votre émission, nous sommes toujours avec Jean Casgrain, vous êtes le PDG de Longchamp. Tiens, vous recrutez chez Longchamp là, cette année ?
Oui, alors pour nos ateliers, pour nos boutiques.
Eh bien, vous gardez le nom pour vous. On va découvrir tout ça dans un instant.
Europe 1, 13h, 14h.
On recrute plus de 400 personnes pour couvrir l'ensemble de notre activité classique.
Aujourd'hui, on recherche énormément de talents.
On recrute 1000 personnes, voire 1500 personnes sur toutes nos agences, sur toute la France, sur tous les métiers.
La totalité de nos magasins recrute.
C'est des centaines d'offres d'emploi qui sont à pourvoir.
On recrute sur tous les métiers de base de la boulangerie, pâtisserie, tous les métiers de vente.
On a plus de 600 postes à pourvoir.
Soyez bienvenus et venez à la rencontre d'une belle boîte dans laquelle on se sent bien.
La France bouge.
Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et on est donc dans La France Bouge, déjà dernière partie de votre émission avec Jean Casgrain, le patron de Longchamp.
Et dans La France Bouge, nous vous aidons à trouver un emploi ou à mettre en relation entreprise et candidat. Bonjour Patrick Nicole.
Bonjour, bonjour Elisabeth.
Vous êtes associé fondateur de Bartel, Bartel cabinet de conseil en organisation et en conduite du changement qui existe depuis 16 ans. Vous êtes présent partout en France et si vous êtes là en direct dans La France Bouge, c'est parce que vous recherchez des profils pour des postes variés, hein, des postes en administration, dans la vente, mais aussi pour des postes de consultant. Est-ce que vous pouvez être plus précis ?
Oui, donc notre métier, hein, c'est d'accompagner les entreprises dans le cadre de leur projet d'évolution des organisations, des processus, des systèmes d'information. Donc pour ce faire, en fait, on a besoin de postes de consultants pour accompagner donc de la vision stratégique à la mise en œuvre opérationnelle. Et c'est des consultants en expérience client, marketing, des consultants en supply chain, excellence opérationnelle, transformation FI, des consultants pour accompagner les directions financières, des data scientists également.
D'accord, mais donc des gens plutôt formés qui ont déjà de l'expérience, c'est ça que vous cherchez ?
Tout à fait.
Donc
tout à fait.
Profil qu'on ne trouve pas en ce moment, on est d'accord ?
Ouais, c'est compliqué.
Ouais. Ou alors il faut surpayer.
Un marché tendu, c'est aussi pour ça que vous êtes en direct. Alors qu'est-ce qui fait que vous pourriez attirer davantage de candidats ? Est-ce qu'il y a une culture d'entreprise particulière ? Est-ce que c'est seulement basé à Paris ou ailleurs ?
Alors, on recrute principalement à Paris et à Lille. Hein. On a un bureau à Lille qui est dynamique. En termes de seniorité, alors c'est vrai qu'on recherche des 3-8 ans d'expérience, mais ça peut être des personnes qui viennent dans le conseil, mais également des personnes qui viennent de l'opérationnel, c'est-à-dire d'entreprise. Mmh. Donc, issues de fonctions marketing, opérations, supply, direction financière, par exemple. Mmh. Et alors, pourquoi rejoindre Bartel ? Bon, déjà, c'est une société en forte croissance, donc depuis plusieurs années, hein, même pendant le Covid, on était en croissance. C'est un cabinet qui est indépendant et qui a vocation à le rester, donc on s'inscrit sur le temps long. On développe l'actionnariat salarié pour permettre justement de s'inscrire sur ce temps long et de pérenniser l'indépendance du cabinet. Et on a une vraie culture entreprise, un vrai esprit Bartel qui est singulier, transversal d'une part, c'est-à-dire que les consultants peuvent travailler sur tout type de mission, tout type de secteur.
Donc c'est varié, les missions sont variées.
Voilà.
Est-ce que j'ai touché l'autre jour, on faisait une émission spéciale sur l'emploi et le vice-président de l'Association nationale des DRH nous dit on n'a jamais eu autant de candidats qui ne viennent même pas aux entretiens ou quand ils ont accepté une offre d'emploi, bah, ils en ont tellement une meilleure du voisin d'à côté en sortant de chez nous que bah, de temps en temps ils nous disent non. C'est le cas également chez vous ? Vous vivez ça ?
Oui, alors globalement les personnes sont en lice dans plusieurs cabinets, hein, c'est certain, surtout en sortant d'école notamment ou lors d'une première expérience. Voilà, néanmoins, c'est vrai qu'à partir du moment où les candidats se sont engagés, généralement ils honorent leur engagement.
Qu'en pense Jean Casgrain ? Enfin, qu'en pense surtout Jean Casgrain ? Vous êtes le PDG de Longchamp, vous nous le disiez tout à l'heure, vous recrutez chez Longchamp ?
Oui, alors donc dans les magasins à tous les niveaux, des conseillers de vente,
bien sûr,
des managers de points de vente ou éventuellement même des personnes qui encadrent quelques points de vente.
Et vous aussi, vous n'avez jamais eu autant de difficultés à recruter ?
Oui, alors pour toute cette partie commerce et point de vente, c'est compliqué.
Mais
parce
même
que
production,
c'est un...
parce que vous êtes dans les Pays de la Loire, la région qui a connu le plus fort baisse de chômage le trimestre dernier. Donc il n'y a plus grand monde pour travailler en Vendée ou dans le Maine-et-Loire.
Alors ça, c'est pour la partie fabrication, mais pour la vente, on sait dans toute la France. Et ce métier du commerce, il a des contraintes. C'est souvent on doit travailler le samedi, éventuellement même le dimanche parfois dans certains cas.
Télétravail pas possible.
Alors que maintenant
c'est quelque chose qui est pris en compte.
Effectivement. Et donc, alors on parle beaucoup des difficultés de recrutement de la restauration ou de l'hôtellerie. Bon, on n'est pas tout à fait à ce niveau-là, mais c'est quand même un peu plus compliqué.
Merci Jean Casgrain, vous êtes le PDG de Longchamp. Vous avez été notre grand témoin du jour aujourd'hui dans La France Bouge. Merci d'avoir été avec nous, Emmanuel.
Bravo pour
nous.
Cette émission.
Merci à vous. Emmanuel, on va se retrouver demain.
À l'hôtel. Ça vous va?
Oui,
lequel? Avec le patron d'Adagio.
Adagio, très belle marque, une belle chaîne hôtelière. On se retrouve demain dans un instant le flash suivi de Christophe Ondelat.